Isabelle Fontaine, bon début de journée.
Bon matin.
On va commencer en parlant ce matin d'une triste nouvelle, je pense, pour le fait français à l'extérieur du Québec.
Au Canada, absolument. Le premier ministre Ford en Ontario qui a annoncé qu'hier, dans le cadre de mesures budgétaires, en fait, pour de simples raisons financières, qu'il abandonnait le projet d'Université de l'Ontario français.
Et le commissariat au service en français aussi.
Et qui abolissait le commissaire au service en français pour transférer les pouvoirs ou le département des plaintes sur les services en français à l'Ombudsman de l'Ontario. Donc, deux mesures qui ont été fortement décriées, qui étaient dans le budget, qu'on n'avait pas vu venir et qui ont été fortement décriées par les communautés francophones en Ontario, mais aussi au Québec, puis à travers le Canada. Puis c'est particulièrement inquiétant, notamment parce que c'est comme si on dit, oui, les minorités francophones ou les minorités au Canada, ça peut être important, mais les difficultés, c'est un luxe. Les difficultés budgétaires, ça l'est plus. T'sais. Puis moi, je ferais un lien avec, au Nouveau-Brunswick, ce qui s'est passé. Hein, trois députés d'un parti qui s'appelle l'Alliance des gens, People Alliance, qui est un parti qui détient la balance du pouvoir, donc qui garde les conservateurs qui viennent de former le gouvernement en place, et qui lui-même défend ou fait la promotion d'une réduction des services en français, là où c'est pas absolument nécessaire, pour des raisons budgétaires qu'on devrait peut-être laisser tomber les services aux minorités.
Tu sais qu'à chaque fois que quelqu'un sur la place publique dit, vous savez, le fait français à l'extérieur du Canada, c'est quand même marginal, c'est décrié. Ces communautés-là vont lever la main, vont dire, écoutez, on est des centaines de milliers de personnes, on est parfois un million de personnes, tu sais, qui parlent français à l'extérieur du Québec. Il y a un aspect qui est quand même vrai. Il est faible parce que hautement en danger se fait français à l'extérieur du Québec constamment, puis on vient d'en avoir une preuve encore.
Absolument, hautement en danger. Puis à un moment donné, il faut vouloir se poser la question au Canada, tu sais, notre histoire, c'est celle de deux peuples fondateurs, les Français et les Anglais. On a décidé ensemble de former un pays. Et cette histoire-là, on l'entretient et c'est celle sur laquelle le pays s'est bâti. Mm-hmm. Et aujourd'hui, dans les chartes, il y a des mesures de protection des minorités linguistiques, que ce soit pour la minorité anglophone au Québec ou pour les minorités francophones ailleurs au Canada. Et moi, je pense que c'est une diversité très importante qu'il faut protéger.
François Legault a bien d'autres chats à fouetter, OK? Mais devrait-il être davantage un leader dans cette défense-là? Parce qu'on s'entend, ça n'apporte pas grand-chose au Québec typiquement. Là. Tu sais, là, à proprement parler, ça n'a pas une donnée économique. Tu sais, défendre le fait français à l'extérieur, ça ne t'amène pas d'argent. Mais tu fais partie d'un pays. Est-ce qu'il devrait assurer ce leadership-là?
Je pense qu'il devrait assurer ce leadership-là. Puis ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que la question souverainiste s'efface tranquillement. Je pense que le Québec peut assumer un rôle de leadership très fort à cet égard-là sans se faire accuser par le reste du Canada ou par les fédéralistes de jouer le jeu des souverainistes. C'est pas une question de projet indépendantiste, c'est une question de présence du fait français en Amérique, oui, qui est prédominant au Québec, mais qui devrait aussi vivre et être en santé ailleurs au Canada. Je pense que c'est important. Puis je pense qu'il y a un très grand nombre de Canadiens qui sont attachés à ça aussi.
Visiblement, il s'en préoccupe beaucoup plus que ses prédécesseurs du fait français d'abord au Québec, qui, on s'entend, sous les libéraux, ça passait souvent 3e, 4e puis 5e dans ta liste de priorités. Mais peut-être qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour lui de l'affirmer aussi d'un point de vue national.
Absolument. Hein? Puis, tu sais, en Ontario, ce serait pas surprenant que cette question-là finisse devant les tribunaux. Là.
Mais en même temps, Doug Ford, il s'en fout éperdument. J'ai vu le gars hier, puis tu sais, tu fais l'espèce de calcul de « il nous manque X millions de dollars, il y en a trop là-bas, tiens, on va régler ça, ce sera pas long. »
C'est pas compliqué, puis c'est comme ça que ça passait dans le budget.
Puis en même temps, sa base électorale est probablement pas très francophone. Fait que tu sais, il y a un calcul aussi là-dedans qui se fait.
Ce genre de politicien-là ne cherche pas le consensus, ne cherche pas à unir une population autour de projets, il cherche à tirer profit des débats qui opposent et des failles qui existent dans la population, puis il le fait encore très bien avec cette question-là. Mais c'est sûr que nous, on a une responsabilité à l'égard de la question politique des positions des francophones au Canada, puis aussi à l'égard de notre rôle dans la fédération. Là, parce qu'on a décidé d'en avoir un, visiblement.
Je te pose une plus grosse question, puis tu n'as probablement pas la réponse. Est-ce que le populisme est mauvais pour les minorités?
Ah, absolument. Définitivement, je pense
que
oui.
Parce que tu sais, je regarde le cas de Ford, c'est clair. Regarde le cas de Trump, écoute.
Ça m'apparaît évident, puis c'est pas juste fondamental. C'est pour la protection de leurs droits, mais c'est aussi pour le contexte social, c'est pour la paix sociale. Le populisme crée des dissensions dans les populations qui opposent les différents groupes, qui en fait des groupes qui défendent leurs intérêts très propres et qui ne cherchent pas nécessairement l'intérêt collectif. T'sais.
Est-ce que l'immigration, parce que, disons, François Legault est pas mal plus frileux sur l'immigration, il l'a vu sélective, Y vois-tu une contradiction là entre l'immigration, qui est une forme de minorité qui débarque chez nous, et une minorité qui est déjà présente ailleurs au Canada, soit celle du fait français?
Est-ce que, en fait, moi, ce qui me préoccupe, là, c'est toute cette redéfinition de l'histoire qu'on peut sentir derrière ça, puis qui est peut-être pas prédominante ici, mais qui pourrait s'installer tranquillement, celle de dire comme si la minorité francophone à l'extérieur du Québec n'était rien de plus qu'une simple minorité
comme
parmi toutes les autres minorités ou communautés qui
au
se sont installées
que,
par après.
Que l'ethnie, par exemple, asiatique. Ou
exactement. Comme si toutes les origines n'avaient pas d'importance et que les francophones n'avaient pas joué un rôle particulier dans l'histoire.
Comme si
on passait de l'histoire des deux peuples fondateurs à une histoire plus fluide de rassemblement de gens de toute origine. T'sais. Puis moi, ça, j'ai une préoccupation par rapport à ça. Je pense que c'est une réécriture de l'histoire inquiétante.
Tout à fait. Lorsqu'on parle de mobilité de main-d'œuvre, c'est pas à sens unique. Il y a une entreprise du Bas-Saint-Laurent qui vient recruter chez nous à Sherbrooke.
Eh oui, ça m'a beaucoup surpris. Une entreprise qui s'appelle Premier Tech, qui est présente dans 26 pays, qui fabrique des équipements industriel et agricole, et qui a des installations principalement à Rivière-du-Loup au Québec, 85 postes à combler, incapables de les combler. Ils se sont dit, comment on va faire? Organiser une tournée des régions du Québec. Ils vont dans 9 villes différentes. Ils étaient à Rimouski cette semaine, il y avait 50 personnes. Ils sont à Sherbrooke mardi prochain. Et là, ça a toute une nouvelle dynamique. On va se mettre à avoir une compétition interrégionale pour aller chercher la main-d'œuvre dans les régions voisines ou aussi loin, parce que l'esprit du Bas-Saint-Laurent.
Ah oui.
Alors qu'on a des pénuries de main-d'œuvre importantes dans le secteur industriel puis manufacturier, même ici en Estrie, là, il faut qu'on fasse face à une compétition qui vient d'autres régions. J'imagine
que tu dois offrir de bons salaires et d'excellentes conditions. Quand tu es assez confiant pour aller dire « je vais aller chercher du monde à Sherbrooke », là?
Ah non, mais il faut que tu sois cassé la tête pour essayer de trouver des solutions à ta pénurie de main-d'œuvre. Mais tu sais, c'est pas un problème...
Dans une région qui a aussi une immense pénurie de main-d'œuvre, c'est pas comme s'il y avait des gens ici qui cherchaient quoi faire.
Exactement. Puis il y en a partout. Tu sais, dans les cégeps, ils ont ce problème-là aussi où les entreprises, pour les professions techniques, vont directement dans les cégeps et embauchent les étudiants avant même qu'ils aient fini leur étude, tellement ils en ont besoin. Là, tu te retrouves avec une cohorte d'étudiants qui, dans le fond, ne sont pas diplômés, mais sont très attirés par des jobs bien payés dans les entreprises, à caractère plus industriel. Donc, tu sais, toute cette nouvelle dynamique-là de la pénurie de main-d'œuvre, on n'en voit pas encore toutes les conséquences. Puis celle-là, c'en est une
Isabelle
spectaculaire.
Fontaine, merci beaucoup. Je te souhaite un excellent week-end. On se retrouve
lundi.
Bye.